sur Fan FM, on est jeudi, on est le 28 mai. Bienvenue sur la radio Autrement. Je vous souhaite un très très bon réveil et une excellente journée.
La Bible dit:
je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée.
Pour recevoir gratuitement une Bible, pharefm.com/bible.
Dans les moments difficiles, en fait, il suffit que je monte dans ma voiture, j'ai un moment de doute et je mets pharefm et en fait, voilà, c'est reparti.
C'est vraiment du soleil pour toute la journée. Et ça fait tellement de bien et l'équipe est tellement sympa.
pharefm est un bon remède pour affronter la journée.
On sait combien la radio encourage tellement de gens, apporte une présence inestimable.
En écoutant Phare FM, ça me donne que le côté positif.
Comme j'ai remarqué que justement Phare FM m'apportait quelque chose, j'avais envie aussi de lui apporter quelque chose.
C'est extraordinaire parce qu'on se sent inclus.
On le dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Vous voulez avoir plus de joie? Soutenez Phare FM.
Phare FM, c'est votre radio et c'est vous qui la financez. Faire venir Phare FM jusqu'à vos oreilles coûte 3000 euros chaque jour. Donnez maintenant sur pharefm.com/don. pharefm.com/don.
Smoke, those days are far and few. Rough, I look like I'm the flow. I'm feeling like it's Friday. Can someone get me coffee? Ooh, la da dee la da, I'm sweet. Ooh, la da dee la da, now I'm mean. Ooh, la da dee la da, I'm sorry. Ooh, la da dee la da, that's me. Glad I'm feeling pretty healthy. Sad, why did I have thirst? Good. Thank you for asking, dude. I wish I bought that cake. Ooh, la da de la da, I'm sweet. Ooh, la da de la da, now I'm mean. Ooh, la da de la da, I'm sorry. Ooh, la da de la da, that's me. Ooh.
Watch the evening news. Life, oh life, oh life, oh life. Do, 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 do. Life, oh life, oh life. Do, do, do. I'm a superstitious girl. I'm the worst in the world. Never walk under ladders. I keep a rabbit's tail. I'll take you up on a dare. Anytime, anywhere. Name the place, I'll be there. Bungee jumping, I don't care. Life, oh life, oh life.
the only one. Life indeed can be fun if you really want to. Sometimes living out your dreams ain't as easy as it seems. You wanna fly around the world in a beautiful balloon. I, oh life, oh life, oh life.
C'était Desiree sur Phare FM, il est 4h07. On est le 28 mai, on est jeudi, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un très très bon réveil et je vous souhaite une excellente journée. Phare FM avec vous dans la nuit autrement pendant encore un peu moins d'une heure. Et je vous propose un beau programme. On va retrouver tout à l'heure Pain de vie avec Jean-Marie Ribé. Et puis un peu plus tard, Hommes et femmes, mots d'emploi et puis bien sûr de la musique. Bleu Soleil et Louisa et la chanson Soleil Bleu suivie de Teriane avec Elie Soares, King of Kings. Merci de rester avec Phare FM. Je vous souhaite encore une très belle journée.
Minuit 5h.
La nuit autrement.
Avec Mireille.
sempre. Tua graça me deu livre acesso. Teu amor trouxe arrependimento, me chamou pra viver no teu reino. No teu reino, filho de Davi, filho de Deus, vem brilhar tua luz sobre os céus. Filho de Davi, meu Senhor, vem encher-nos do teu amor, teu amor.
We believe in the Spirit, three in one.
Acredito no Pai, acredito no Filho, acredito no Espírito, que são um com Deus.
We believe in the Father.
Acredito no Pai.
We believe in the Son.
Acredito no Filho.
We believe in the Spirit.
Acredito no Espírito.
Place maintenant votre message pain de vie avec le pasteur Jean-Marie Ribet.
J'ai envie de vous parler un peu de gros sous. La Bible aussi parle d'argent et on trouve des histoires d'argent. On va d'abord la lire ensemble, si vous voulez, c'est dans l'évangile de Matthieu. Et puis après, on va la commenter un petit peu, on va voir quelques points à ce sujet. Et c'est dans Matthieu au chapitre 19. Et on va lire ensemble à partir du verset 16. On va faire un petit peu un commentaire de texte. Voilà, je lis. Et voilà qu'un homme s'est approché et dit à Jésus, « Maître, qu'est-ce que je dois faire comme bonne œuvre pour avoir la vie éternelle ?» Et Jésus lui a répondu, « Mais dis donc, pourquoi est-ce que tu me poses des questions à propos de ce qui est bon ? Il n'y en a qu'un qui est bon. » Et si tu veux entrer dans la vie, obéis aux commandements de Dieu. Oui, mais lesquels ? Il a demandé. Mais Jésus lui a dit, tu les connais. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne diras pas de faux témoignages, honore ton père, ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme a dit, mais j'ai fait tout ça, j'ai obéi à tous ces commandements. Qu'est-ce qui me manque encore ? Jésus lui dit, si vraiment tu veux être parfait, alors va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et comme ça après tu auras un trésor dans le ciel. Et puis après, viens, suis-moi. Après avoir entendu ça, le jeune homme s'en allait tout triste, parce qu'il était bien riche. Alors Jésus dit à ses disciples, écoutez les gars, ce que je vais vous dire. Un riche aura vraiment de la peine à rentrer dans le royaume des cieux. Je vais même vous dire que c'est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Alors les disciples, après avoir entendu ça, ils se regardaient, ils étaient tout étonnés. Ben, qui c'est qui peut être sauvé alors? Jésus les a regardés, il leur a dit, aux hommes, c'est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Mais alors après, Pierre a pris la parole et dit, et nous alors? Nous on a tout quitté pour te suivre, qu'est-ce qui va devenir de nous alors? Et Jésus leur a dit, je vais vous dire quelque chose. Quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez vous aussi assis sur 12 trônes et vous jugerez aussi les 12 tribus d'Israël. Et n'importe qui aura quitté à cause de mon nom, ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, ou sa femme, ses enfants, ou ses terres, ses maisons, recevra le centuple. Et il héritera même la vie éternelle. Et plusieurs des premiers seront les derniers. Et plusieurs des derniers seront les premiers. Alors, il est beaucoup question d'argent et de la place de l'argent dans la vie. Et on voit que ce jeune homme qui est venu voir Jésus est venu le voir avec une question. Et c'était une question qui était vraiment une question importante. Vous savez que souvent, certains récits dans les évangiles nous sont rapportés par plusieurs des évangélistes. Alors, donc vous avez Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ici, on vient de le lire, cette histoire racontée par Matthieu. Mais Marc et Luc l'ont raconté aussi. Quand il y a plusieurs témoins d'un même fait, eh bien chacun rajoute son éclairage, son observation, quelque chose qu'un autre n'a pas vu lui, il le ramène. Et on va voir que chacun a rajouté quelque chose. Et donc voilà cet homme qui s'approche et Luc nous dit par exemple que cet homme était un chef. C'était un notable du village. C'est quelqu'un qui a une position, il était peut-être chef de la synagogue ou quelque chose comme ça. Et donc il était chef, il était connu, etc. Quelqu'un de respectable. Et il s'approche de Jésus et Marc a dit, non seulement il s'est approché, mais il a dit qu'il s'était jeté à ses pieds, il s'est prosterné devant lui. Donc il reconnaissait que Jésus était quelqu'un d'extrêmement important. Même pour un juif, se prosterner devant un homme, c'est un acte difficile à faire, spirituellement difficile. Et cet homme avait déjà de Jésus une appréciation très très haute. Lui, un chef, quelqu'un de connu, un notable dans la ville, publiquement, il n'avait pas honte de se prosterner devant Jésus. Et ici, Matthieu dit qu'il a dit « maître hein, ». Que dois-je faire de bon? Marc et Luc ont dit, il l'a appelé bon maître. C'est joli, hein? Jésus, ici, lui dit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Voyez, Jésus semble vouloir le ramener plus loin. Et ça, Jésus procède très souvent comme ça. Il part de ce qui est à notre niveau, de ce qui se fait, et puis il veut nous aider à franchir une étape, ou plutôt, je dirais, à changer de sphère, à changer de domaine. On peut dire que dans la vie, il y a des choses qui sont bonnes ou pas bonnes. Ok, ça, on est d'accord. Mais Jésus veut l'amener plus loin en disant qu'il n'y a qu'une chose, il n'y a qu'un domaine qui est radicalement bon, c'est ce qui est du domaine de Dieu. Il lui dit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Il est en train de lui dire, si tu poses des questions à propos de ce qui est bon, ça va forcément te ramener à Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui est bon. C'est pour ça que dans les autres évangiles, où il a dit « bon maître hein, », et dans les deux cas, dans Marc et Luc, comme il a dit « bon maître », Jésus a dit « pourquoi m'appelles-tu bon ? Si tu m'appelles bon, tu te rappelles qu'il y a de bon que Dieu. » Et certains ont cru que Jésus refusait d'être appelé bon. Non, Jésus ne refuse pas d'être appelé bon. Il voulait seulement montrer à cet homme que s'il l'appelait bon, au sens le plus profond du terme, il était en train de l'assimiler à Dieu lui-même. Il dit, tu m'appelles bon, mais de bon, il n'y a que Dieu qui est bon. Est-ce que tu continues de m'appeler bon? Et dans ce sens, il aide déjà cet homme à se poser une question fondamentale. Il s'est prosterné devant Jésus, ok, comme maître, comme enseignant, ok. Mais Jésus l'amène plus loin, il dit, attends, est-ce que tu reconnais que tu es en train de me donner un qualificatif que, au sens le plus total, on ne peut donner qu'à Dieu? Et cet homme a dit, mais qu'est-ce que je dois faire de bon pour avoir la vie éternelle? C'est une bonne question, hein? Alors la vie éternelle, eh ben, beaucoup voudraient savoir, est-ce qu'il y a un truc, où est-ce qu'on peut prendre le ticket, quoi? Comment on peut faire? Alors il a dit, qu'est-ce que je peux faire, hein? Est-ce que c'est une bonne question? Oui, disons que le désir est bon, mais la question n'est pas forcément une très bonne question. Parce que la question de la vie éternelle n'est pas solutionnée par une œuvre qu'on devrait faire. Hein. Ce n'est pas quelque chose à faire qui nous permettra. C'est gratuit, c'est le don de Dieu. Mais cet homme a posé la question comme il pouvait la poser, comme il savait la poser. Il a dit, qu'est-ce que je peux faire de bon pour avoir la vie éternelle? Et Jésus lui a dit, mais écoute, tu as une Bible, tu la lis. Dedans, il y a la loi de Moïse. Et dans la loi de Moïse, c'est écrit ce qu'il faut faire. Dieu a donné des commandements, tu obéis aux commandements, tu suis les commandements de Dieu. Et alors, on voit que notre visiteur, ça ne lui suffisait pas. Il avait envie de quelque chose d'autre. Il dit, oui, mais les commandements, dans toute la loi, il y en a beaucoup. Lesquels? Je ne pense pas qu'il voulait dire lesquels faut prendre, lesquels faut laisser. Tous les commandements de Dieu sont des commandements de Dieu. Je pense que ce qu'il voulait dire, c'est lesquels sont plus importants, lesquels sont vraiment la clé, quoi. Jésus ne lui a pas ouvert une porte nouvelle, ce n'est pas une révélation. Jésus l'a ramené au décalogue, Jésus l'a ramené aux 10 commandements. La deuxième partie des 10 commandements, tous les commandements qui se rapportent au niveau horizontal, au niveau de nos relations les uns avec les autres. Hein. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne rendras pas de faux témoignages, etc. Marc ajoute, tu ne feras tort à personne. Parce que quand on voit des gens qui sont bien riches, on a souvent envie de rajouter un peu celui-là aussi. Parce qu'on a toujours l'impression que s'ils sont bien riches, quelque part, ils ont dû un peu profiter. Et puis, après, Jésus rajoute d'une façon globale, il dit, il en rajoute un qui est dans Lévitique 19-18, il rajoute celui qui englobe tout ça, il dira, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et alors, on s'aperçoit que cet homme était... Moi, je le vois déçu, si vous voulez. Parce qu'il espérait que Jésus allait lui dire quelque chose qui, pour lui, serait quelque chose de nouveau, quelque chose qui lui ouvrirait une voie spéciale. Il dit, mais je connais tout ça. Et il dit, mais j'ai fait tout ça. Là, nous, on se pose des questions. On dit, mais comment quelqu'un peut dire qu'il a obéi à tous les commandements de Dieu? Et alors, on peut avoir le sentiment qu'on est en face de ce qu'on appelle un propre juste. Je vais vous expliquer ce que c'est un propre juste, parce que peut-être vous n'en connaissez pas. Alors, un propre juste, c'est quelqu'un qui se confie dans sa justice propre. Non, c'est quelqu'un qui se confie en lui-même, en fait. C'est quelqu'un qui ne perçoit pas sa culpabilité, ses erreurs, ses défauts, etc. Et qui pense que son comportement, globalement, et aussi dans les détails d'ailleurs, est tout à fait irréprochable. Alors, on peut se dire, mais ça, c'est un propre juste. Mais nous sommes détrompés par le fait que, dans un des marques, je crois, il rajoute que Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Je sais que Jésus a aimé tout le monde et qu'il a aimé même les pécheurs. La preuve, c'est qu'il nous a cherchés. Même si cet homme avait été de cette catégorie des propres justes, Jésus l'aurait aimé quand même. Mais de la façon dont c'est écrit d'une manière qui donne à penser que Jésus a aimé sa réponse. Jésus n'aurait pas aimé le mensonge, pire encore l'hypocrisie. Et quand il a dit « j'ai fait toutes ces choses, depuis ma jeunesse, j'ai obéi à toutes ces choses », Jésus l'a regardé, Jésus l'a aimé. C'est-à-dire que Jésus a cautionné sa réponse. Il a vu que c'est effectivement le cas de cet homme. Alors on peut dire, mais est-ce que seulement ça peut exister des gens comme ça? Oui, il y en a même dans la Bible, vous en avez. Vous avez par exemple, j'aime bien le cas des parents de Jean-Baptiste, Zacharie et Élisabeth. Et on nous dit de Zacharie et Élisabeth qu'ils étaient tous, je vais vous le lire exactement, c'est dans Luc 1:6, mais ne cherchez pas, tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Voilà, on dit de deux personnes que par rapport à toutes les ordonnances, toutes les lois, toutes les prescriptions, toute la loi de Moïse, le texte par le Saint-Esprit nous dit que tous les deux, ils observaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Donc si c'était le cas de Zacharie et Élisabeth, ça pouvait être aussi le cas de ce jeune homme. Et s'il y en avait deux, il y en avait trois, il y en avait plusieurs. Alors, comprenez-moi bien. Je ne dis pas que ces gens-là étaient parfaits au sens divin de Dieu. ils étaient parfaits au regard des commandements. Au regard de la loi, ils étaient irréprochables. Et c'est ce que cet homme était. Mais ce qui est très intéressant, c'est que, étant dans cette situation depuis toujours, depuis sa jeunesse, il était aussi arrivé à la conclusion qu'il lui manquait quelque chose. Et ça, c'est vachement intéressant. Ça veut dire qu'il s'est rendu compte que par son bon comportement, par ses bonnes œuvres, par sa fidélité à la loi, par sa façon irréprochable de suivre la religion de Dieu, malgré cela, il n'avait pas trouvé la plénitude. La perfection n'était pas dans l'observation humaine de la loi. Et il s'est dit, avec tout ça, je passe quand même, je sens que je passe quand même à côté de l'essentiel. Il avait un vide, il y avait une soif, il y avait quelque chose qui lui manquait. Alors quand il a su que ce Jésus dont on parle, qui vit la puissance de Dieu, qui est dans une telle relation avec le Père, qui parle du Père, on a l'impression quand il en parle qu'on voit le ciel s'ouvrir, quand il prie, la puissance de Dieu descend et transforme les gens, il s'est dit voilà, voilà celui qui va m'expliquer ce mystère, alors que j'ai tout bien fait, alors que je me suis cassé la tête, alors que je me tiens bien en garde contre toute forme de mal, alors que je suis fidèle à Dieu, comment ça se fait qu'il me manque encore toujours quelque chose? Je vais aller voir ce Jésus, il va m'expliquer. Il est arrivé avec une soif de Dieu, une soif de connaître une voix qui, peut-être à ses yeux, lui semblait être une voix mystérieuse, quelque chose qui demandait une révélation spéciale, puisqu'il connaissait toute la loi, il l'a observée en entier, donc il la connaît parfaitement. Il dit donc qu'il y a quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. Il faut que ce Jésus m'initie à cette présence de Dieu que lui, il a. Alors il arrive comme ça et dit, Jésus, qu'est-ce qui me manque? Et Jésus l'a regardé et Jésus a aimé cette question. Il a aimé cette soif, il a aimé ce monsieur et lui a dit effectivement, il te manque quelque chose. Quand Jésus il avait posé la question, il avait dit, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Et Jésus lui avait dit, pour avoir la vie éternelle, observe les commandements. Et Jésus, disant ça, Jésus ne faisait que dire ce que la Bible dit. Hein, Lévitique 18,5 dit, « Quiconque met ces choses en pratique vivra par eux. » Je vous le lis encore exactement. Lévitique 18,5. « Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. » Ça, c'est la loi de Moïse. « Vous observerez ces choses. » Vous observerez mes lois, mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Et cet homme les mettait en pratique parfaitement. Vous voyez, quand il a dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir la vie éternelle? Jésus lui a dit, observe la loi. Donc, pour cet homme, cette question-là, elle était résolue. Mais il dit, il me manque quelque chose. Alors Jésus, maintenant, voudrait l'emmener plus loin. Maintenant, il ne lui parle plus de la vie éternelle. Il ne lui parle plus d'un accès. Il lui dit, si tu veux être parfait. En grec, teleios, c'est un mot qui veut dire ce qui est fini, achevé, complet, ce qui est arrivé à sa plénitude. Ça veut dire aussi adulte, ce qui est terminé, achevé. Si tu veux être parfait, lui dit Jésus, alors tu peux faire autre chose. Et Jésus l'a regardé et il lui a donné une direction à suivre. Il dit, tu prends tout ce que tu as, tu vends tout. Après, avec l'argent, tu fais des distributions, tu donnes tout aux pauvres. Comme ça, tu auras investi, tu as un trésor dans le ciel, et puis tu viens, tu me suis, tu viens avec moi. Est-ce que Jésus a dit ça à tout le monde? Est-ce que c'est un ordre que Jésus a donné à tous les disciples, toujours et partout? Non? Comprenez bien, quel est le but de cet ordre? Qu'est-ce que Jésus est en train de demander à cet homme? Est-ce que vous pensez qu'il est en train de lui demander tous ses biens? Moi, je ne crois pas. Ce que Jésus est en train de lui demander, c'est de le suivre. Et chez cet homme, ses richesses sont un obstacle qui l'empêche de suivre Jésus. Ce n'est pas ses richesses que Jésus lui demande. Ce que Jésus lui demande, c'est de le suivre. Il lui dit, débarrasse-toi de ton obstacle. Quand tu t'es débarrassé de ton obstacle, viens, suis-moi. Ça, c'est être parfait. Ça, c'est le but de la vie chrétienne. Le but de la vie chrétienne, c'est d'être réuni à Christ. Le but de la vie chrétienne, c'est d'être un avec lui. Le but de la vie chrétienne, c'est de demeurer en Dieu et que Dieu demeure en nous. Ce n'est pas simplement d'échapper à l'enfer, ce n'est pas seulement d'échapper à la perdition, ce n'est pas simplement d'avoir un ticket, un coup de tampon spirituel sur notre passeport pour passer, entrer dans le ciel juste avant que les portes se ferment derrière nous, trouver un petit strapontin et puis attendre pendant l'éternité. Ce n'est pas ça, la vie éternelle. Le but de la vie chrétienne, c'est de connaître Jésus pour être rendu semblable à lui lorsque nous le verrons tel qu'il est. C'est autre chose. C'est de ça que Jésus parle. Jésus lui dit, écoute, tu peux faire bien mieux que ça. Je vais te proposer une voie qui te mène à la perfection. La voie qui te mène à la perfection, c'est de me suivre. Il n'a pas dit, la voie de la perfection, c'est de faire des œuvres de générosité. Il a dit, la voie de la perfection, c'est de me suivre. Mais comme tes biens sont un obstacle chez toi, alors débarrasse-toi de l'obstacle. Donne tes biens, débarrasse-toi avant tout, donne tout. Puis comme ça, après, tu me suis, et puis on est ensemble, on est bien. Alors là, l'autre, on dit qu'il était triste, même Marc ajoute qu'il était affligé. Parce que je pense qu'il était affligé pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il ne s'attendait pas du tout à quelque chose comme ça. Lui, il pensait que Jésus allait lui donner une voie, je ne sais pas, peut-être une voie d'ordre mystique, ou une pratique contemplative, ou je ne sais pas quoi, quelque chose comme ça. Et voilà qu'on est resté sur le terrain du matériel, et puis il s'est vu maintenant dans un domaine où il avait des limites. Tout donner, se débarrasser de tout, c'est difficile, hein ? D'un seul coup, dans sa tête, il a vu tout ce que ça comportait. Il avait peut-être une belle maison avec une piscine. Il avait peut-être beaucoup de biens sur des comptes divers. Il avait peut-être des tas de choses. Et d'un seul coup, il se voyait dépouillé de tout ça. Dépouillé aussi de son rôle de chef. Parce que chef sans sous, vous n'êtes plus chef de grand-chose, hein ? Tout d'un coup, il s'est senti brisé, il s'est senti comme un poulet sur l'étal du boucher, là. Il se sentait tout nu. Alors, le texte dit qu'il est parti tout triste. Mais notez bien que nous, on en a facilement souvent conclu que ça, c'est sa réponse. Mais ce n'est pas sa réponse. C'est sa réponse du moment. Moi, il me plaît à imaginer qu'il est parti réfléchir. Quand Dieu nous demande des choses extraordinairement difficiles, qui d'entre nous, nous les avons décidées comme ça, pouf, en deux minutes, d'accord, je renonce à tout. On n'a pas fait comme ça. Combien de temps on a réfléchi ? Des fois, certains d'entre nous, pour des pas de foi bien plus petits que ça, eh bien, on a pris notre élan pendant longtemps. Hein ? On a des fois pris une course d'appel qui durait 6 mois. Mais des fois, on y est arrivé quand même. Alors, peut-être qu'il y est arrivé aussi, on ne sait pas. En tout cas, c'était vraiment difficile. Mais alors, ce qui me fait sourire, c'est la tête des disciples qui étaient autour. Parce qu'alors, eux, ils étaient mal à l'aise pour le coup, hein ? Eux, ils n'étaient pas du tout bien. Parce que quand Jésus a expliqué la chose, il a dit, vous savez les gars, rentrer dans le ciel, pour un riche, c'est vachement dur. Hein ? Ah, les autres ont dit oui, parce qu'ils ne se sentaient pas riches. La richesse, c'est toujours seulement relatif. Hein ? Dans un pays communiste, quelqu'un disait, un syndicaliste a demandé à toute la foule, camarades, pensez-vous que si quelqu'un a 2 maisons où il doit en donner une, tout le monde a dit oui, qu'il en donne une. Il a dit, si quelqu'un a 2 voitures, est-ce qu'il doit en donner une ? Oui, qu'il en donne une ! Après, il a dit, si quelqu'un a 2 motos, est-ce qu'il doit en donner une ? Oui, qu'il en donne une ! Après, il a dit, si quelqu'un a 2 vélos, oh, ils n'ont rien dit, parce qu'ils avaient tous 2 vélos. Oui, tout est relatif. Il faut surtout être d'accord pour toujours partager, mais surtout l'argent des autres. Les disciples ici, ils n'étaient pas bien dans leur peau. Quand Jésus, pour être sûr que tout le monde comprenne bien, il a dit, il est plus facile qu'un chameau passe par le trou d'une aiguille qu'à un riche de rentrer dans le royaume. Bon, ils n'étaient pas très bien, hein. Et Pierre pose la question, et j'aime bien cette question, il a dit, quand on lit les textes, il faut faire attention bien aux mots, hein. Pierre a dit, voici, nous avons tout quitté. Il n'a pas dit, nous avons tout donné. C'est pas pareil, hein. C'est pour ça qu'ils étaient gênés. Parce qu'ils avaient tout quitté, mais ils n'avaient pas tout donné. C'est une chose de quitter, mais ça permet de revenir. Mais donner, ce n'est pas pareil. Donner, moi j'ai appris ça à l'école maternelle, donner c'est donner, reprendre c'est voler. Mais là, il ne s'agissait pas de donner. Là, ils ont dit, voici, nous avons tout quitté. Oui, par exemple, Jacques et Jean, quand ils sont partis, ils ont quitté, ils étaient avec leur père, ils ont quitté. Mais ils n'ont pas vendu la barque. Le papa était encore dedans, hein. Quand l'apôtre Pierre, dans Jean 21, il est revenu, il a dit, on va à la pêche, il a pris sa barque. Mais ils avaient quand même tout quitté. Ils avaient fait un effort. Et remarquez que des fois, que sur des histoires comme ça, on a presque le sentiment des fois comme si Jésus ne demandait pas la même chose à chacun. Vous n'avez jamais eu ça? Et même dans la vie, vous n'avez pas eu des fois cette impression-là, des fois? Vous n'avez jamais eu l'impression que des fois Dieu vous demandait à vous plus qu'il demandait à votre voisin? Pourquoi est-ce que à lui, à côté, tout lui réussit? Et puis moi, j'ai toutes les guignes. Pourquoi est-ce que moi, c'est encore moi qui dois aller me coltiner de faire le truc, le ménage, machin, et l'autre, pendant ce temps, il écoute le Messie de Handel? Pourquoi c'est toujours moi qui dois faire les histoires? Et le Seigneur dit, mais ça, c'est ta part. Parce que vous savez, Dieu nous connaît chacun personnellement. Et il demande à chacun ce qu'il est nécessaire pour lui. Et cet homme, pour être libre, il avait besoin d'être débarrassé d'un lien qu'il avait avec l'argent. Mais peut-être que Pierre n'avait pas ce lien avec l'argent. Jésus ne lui a pas parlé de ça. Jésus leur a dit, vous qui avez tout quitté pour moi, je vais vous dire que vous ne serez pas perdant. Il ne leur a pas dit que dans ce monde-ci, ils allaient recevoir au centuple, s'ils avaient quitté une barque, ils allaient en recevoir une centaine. Les pauvres, ils en auraient fait quoi avec ça, hein? Non, il leur a dit qu'ils ne seraient pas perdants, qu'ils allaient recevoir au centuple. Il leur a dit, entre autres, dans Luc, il ajoute, avec des persécutions. C'est-à-dire, après, il va falloir bagarrer avec ça, hein? Et même dans Luc, il ajoute celui qui aura quitté ses enfants, etc. Et puis dans Luc, il dit aussi, et sa femme. Donc Jésus ne voulait pas dire, vous voyez, donc quitter, c'est pas, ça n'a pas le sens de définitif. Sinon, Jésus n'aurait pas pu encourager le fait que quelqu'un quitte sa femme définitivement. Ah non, il y en a qui avaient compris comme ça. Non, non. Ce que Jésus veut dire, c'est qu'il y aura des sacrifices. Mais ce que nous appelons quelquefois des grands sacrifices, c'est seulement Dieu qui est en train d'investir dans nos vies. C'est seulement Dieu qui est en train de nous préparer à des choses qui vont être plus grandes, qui vont être meilleures. Et nous aurons souvent l'impression que Dieu nous demande quelque chose de difficile. Mais si nous pouvions être tous dans l'état d'esprit de ce jeune homme, moi j'aime beaucoup ce jeune homme, quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui a aimé Dieu, quelqu'un qui a voulu servir Dieu, et quelqu'un qui a eu l'intelligence spirituelle de se rendre compte que par lui-même, tous ses efforts, même les meilleurs, ne lui permettrait pas de toucher Dieu, et qui ne voulait pas se contenter de ça, qui voulait aller plus loin, qui voulait vraiment toucher la présence de Dieu. Que nous puissions avoir ce genre de soif, ce genre d'appétit, ce désir de présence de Dieu. Que nous puissions nous prosterner devant Jésus et dire, Jésus, je ne veux pas me contenter de ce que j'ai aujourd'hui. Je ne veux pas me suffire facilement, mais je veux ce qui est plein, je veux ce qui est total. Je veux devenir parfait au sens où Jésus a dit, vous serez parfait, parce que le Père Céleste est parfait. Et quand nous avons cette soif, alors le Seigneur va nous montrer les choses qui dans nos vies sont des obstacles. Et sur le coup, c'est clair que ça va nous affliger. Parce que justement, si Dieu met le doigt dessus, c'est justement parce que c'est la chose qui nous tient à cœur et qui nous retient, qui est un frein à l'intérieur. Nous en débarrasser, ça nous paraît souvent comme une amputation, comme une ablation. On a l'impression de se perdre, de ne plus être nous-mêmes. Et le Seigneur dit, oui, mais enlève ça. Et puis viens et suis-moi. Le Seigneur ne nous appelle pas à des sortes de renoncements pour qu'après on soit pas bien, pour qu'après on soit triste, pour qu'après la vie devienne encore plus difficile, qu'on marche dans la vie comme amoindri. Il dit, et après soi, viens et suis-moi. Il sait que si on renonce, alors à ce moment-là, notre capacité de le suivre, notre capacité d'être avec lui va être multipliée. Seulement, on ne peut réellement en profiter qu'après qu'on ait quitté. C'est seulement après qu'on est coupé. C'est seulement après qu'on ait fait le sacrifice qu'on en perçoit le bénéfice. Avant, on ne voit que le côté difficile, que le côté douleur, que le côté renoncement, que le côté pénible, que le côté humiliant, dévalorisant. Mais je vais avoir l'air de quoi devant tout mon village? Moi, j'étais un notable, j'étais un chef, j'étais quelqu'un de bien. Je faisais du bien aussi, partout. Hein? Mais après, je serai quoi? Après, tu seras quelqu'un qui sert Jésus. Après, tu es quelqu'un qui est dans la présence de Dieu. Après, tu es quelqu'un qui a cette proximité, cette présence, ce rapport, cette intimité avec le Seigneur. Et ça, ça vaut mieux que tout. Ça vaut mieux que toutes les richesses. Ça vaut mieux que toutes les qualifications. Que me manque-t-il encore? Est-ce que nous n'avons pas, les uns et les autres, posé ces questions? Peut-être même que quelqu'un est là pour, je ne dis pas la toute première fois, mais quelqu'un qui commence dans la vie chrétienne. Peut-être même quelqu'un qui n'a même pas fait le pas de marcher avec Jésus. et qui sent que dans sa vie, il manque l'essentiel. Vous avez des gens qui ont tout. Et c'est des fois intéressant de tout avoir, parce que c'est à ce moment-là qu'on se rend compte de ce qui nous manque. Les gens les plus désespérés dans ce monde, j'allais dire paradoxalement, sont souvent des gens très riches, des gens qui ont tout. Et lorsque quelqu'un est très riche et qu'il a tout et qu'il se rend compte qu'il peut tout avoir, il peut tout toucher, tout est à sa portée, mais plus rien n'a de valeur. C'est l'expérience qu'avait fait Salomon quand il dit « Tout ce que je pouvais faire, je l'ai fait. Tout ce que je pouvais acheter, je l'ai acheté. J'ai voulu m'investir dans l'art, je l'ai fait. J'ai voulu m'investir dans l'architecture, je l'ai fait. J'ai voulu m'investir dans tout, dans les plaisirs, j'ai tout eu. » Et il dit à la fin, je suis arrivé à la conclusion que tout est vanité, vanité des vanités. Tout est vanité. Alors, bien sûr, tant qu'on n'est pas arrivé à ce niveau, on a un peu de la peine à comprendre ce désespoir des riches. On se dit, ben, dans le fond, s'ils ne sont pas contents, eh ben, c'est qu'il y a une justice. Hein. On a un peu de la peine. Vous savez pourquoi ? Ben, parce qu'on est jaloux, ça c'est clair. Peut-être que quelqu'un sent dans sa vie un vide, il y a un manque. Pourtant, tu as une bonne situation. La vie t'a relativement souri, la nature t'a plutôt gâté, tu es bien de ta personne, un bon métier, une bonne famille, une situation tranquille, pas de difficultés, bonne santé, un petit peu d'aptitude au sport, t'es bien quoi, mais il te manque quelque chose. C'est Jésus qui te manque. Tant que tu ne comprends pas que c'est ce Jésus qui te manque, alors tu restes avec ton vide, tu pourras chercher à le remplir avec ce que tu veux. Essaye de le remplir en prenant comme mesure une petite cuillère ou une pelleteuse, mais ça ne changera rien. Tu vas rester avec ton vide. Que tu essayes de le remplir vite, goulûment ou avec science, tu vas rester vide quand même. Et même les chrétiens sont comme ça. Si nous sommes seulement persuadés que la vie chrétienne consiste à être quand même un tout petit peu moins mauvais que notre environnement, si nous sommes seulement habitués à penser que parce qu'on obéit aux commandements de base, on a fait quand même l'essentiel, on se satisfait dans une loi chrétienne et on ressent un vide. Mais Jésus ne dit pas ça. Jésus nous dit, si tu veux être parfait, débarrasse-toi de ton problème. Si tu veux être parfait, débarrasse-toi de ton obstacle. Pour l'un, c'est une chose, pour un autre, c'est une autre. Pour un autre, c'est encore autre chose. Il y a des choses qui, pour certains, vont être extrêmement difficiles à lâcher, alors que les autres les ont lâchés, ça leur est tombé de la main. Et pour d'autres, c'est tellement difficile. Mais honnêtement, j'aimerais vous dire, si chaque fois que Dieu nous montre là où nous devons lâcher, si nous étions capables de le faire, comme nous serions heureux. Ce qui nous rend malheureux, c'est jamais le commandement de Dieu. C'est jamais l'obéissance à Dieu, ni ses conséquences. Ce qui nous rend malheureux, c'est les freins que nous mettons à obéir à la volonté de Dieu. La Bible nous dit que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Et quelquefois, tant qu'on ne l'a pas faite, sur le mot agréable, allez, on est entre nous, on ne dit rien à personne. Des fois, on a des doutes, non ? Ce n'est pas vrai, honnêtement. Mais c'est tant qu'on ne l'a pas faite. C'est tant qu'on n'y est pas rentré à fond. Mais quand on y est rentré à fond, alors on goûte que dans la volonté de Dieu, il y a la présence de Jésus. Ce n'est pas une loi, ce n'est pas une religion. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont été sauvés, qui ont été chrétiens et qui ne sont jamais rentrés là-dedans. Parce qu'on n'est pas sauvé parce qu'on aura fait des œuvres, on est sauvé par la grâce. Si quelqu'un a été sauvé, c'est toujours par grâce. C'est toujours gratuit. Chez personne, ça n'a jamais été parce qu'il a été tellement bon, tellement gentil. Ce n'est pas pour être sauvé qu'on veut faire la volonté de Dieu. Mais c'est parce qu'on a été sauvé qu'on a envie de lui plaire.
Ce message a été enregistré à l'église de la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Pour le réécouter et le commander, rendez-vous sur philadelphie.com.
There's a hope I keep holding on to. Though the flames rise, my spirit won't rattle. It's a long fight, but I'm gonna get through, yeah. Oh, 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 oh. It's not a war against flesh and blood.
Jordan Félix Armor sur Phare FM. Il est 4h48, la radio Autrement qui est avec vous dans la nuit Autrement pendant encore un peu plus de 10 minutes. J'espère que le réveil n'est pas trop dur. Je vous souhaite un très bon réveil ce jeudi 28 mai et je vous souhaite une excellente journée. Le bonheur est un art à pratiquer comme le violon, a dit John Lubbock. Que cette citation puisse nous accompagner durant cette journée. On poursuit, c'est en musique avec École Pierre, Tu es le même, suivi de Julien Lib, Ota et la chanson Dis-moi où, et on retrouvera ensuite Hommes et femmes, mode d'emploi. Merci de rester avec Phare FM.
Si un jour je traversais l'ombre, si mon âme était prise de honte, si jamais j'oubliais ton nom, tu resterais le même. Si la nuit pèse sur mes jours, si la vie m'impose un détour, si ma voix appelle au secours, ta promesse est la même, ton amour fidèle qui me rappelle de la croix que tu m'aimes, ta bonté éternelle qui me ramène à l'abri dans tes bras, car tu m'aimes. Si la vie me séduit au large, si l'odeur de la gloire m'égare, si je te laisse seul à part, tu m'aimerais quand. Si demain le soleil se lève, si tes voix pour moi se révèlent, si ma vie est plus belle qu'un rêve, pour moi tu es le même. Ton amour fidèle qui me rappelle au pied de la croix que tu m'aimes, ta bonté. Ta bonté ne faillit pas, si tu es là dans mes combats, si ta vie est offerte pour moi, aide-moi à t'aimer.
Pense à la vie d'avant, à la peur, la faim et au temps. Ce qui disait tu pourras pas faire mieux. Maintenant je crie pour ceux qui m'ont dit qu'ils feraient tout pour ma vie. Je leur ai tout donné, mon cœur, mon âme, mes cieux. Donne-moi ta main sur le cœur, j'attendrai pendant des heures. Avec toi j'aurai plus peur, c'est comme ça que j'irai mieux. Je serai plus jamais seul, je veux que tu m'emportes ailleurs. S'il te plaît dis-moi où.
Croiser les deux, j'savais que je tenais trop fort, trop lourd, ce passé douloureux. J'ai vu le bien et le mal se regarder droit dans les yeux. J'ai retenu mes failles avec un amour silencieux. Dépose ta main sur mon cœur, j'oublierai toutes mes douleurs. Avec toi j'aurai plus peur, c'est comme ça que j'irai mieux. Je veux plus jamais rêver seul, je veux que tu m'emportes ailleurs, puisqu'ensemble on vivra mieux.
S'il te plaît, dis-moi où.
Je vis, je sais pas comment je vais encore tenir la confiance en moi, c'est qu'une question de toi.
J'arrête, j'avis, je m'apprête, je vis, je sais pas comment je vais encore tenir la confiance en moi, c'est qu'une question de toi.
S'il te plaît, dis-moi où. Dis-moi où et comment. Quand est-ce que ça commence,
s'il te plaît.
Hommes et femmes, mode d'emploi avec Eric et Rachel Dufour, en partenariat avec The Watchers.
Notre thématique du jour, la petite enfance.
Vraiment cette notion de protection, on les sécurise, et pour les sécuriser, on leur donne des limites qui vont leur dire, va pas plus loin que ça, parce que sinon c'est dangereux de l'autre côté. Il faut trouver l'équilibre entre les laisser explorer et se sentir en sécurité dans les limites.
Alors on s'est aperçu, puisqu'on les avait rapprochés, ça nous a permis de voir des similitudes de comportement, bien qu'ils soient très différents dans leur personnalité. Et par exemple, à 2 ans, puis à 4 ans, puis à 7 ans, alors c'est variable selon l'enfant, mais on voyait des situations se répéter où ils vont tester les limites parce que leur univers grandit, puis ils vont s'y installer pour quelques années, puis leur univers va regrandir, et à chaque fois ils vont aller voir le papa ou la maman, et tester, voir si les limites sont les mêmes. Alors, vous êtes aperçu de ça, ils savent ni marcher ni parler, mais ils savent déjà tester leurs parents, et voir si vous êtes d'accord tous les deux sur les mêmes choses. Et ils sont très intelligents pour savoir trouver la fissure s'il y en a une. Oui. Si papa est plus souple sur un truc et maman sur un autre, ils vont intuitivement le savoir. Mais en fait, l'enfant a besoin de savoir que vous avez la même définition des limites, parce que ça va le rassurer. Après les avoir testés régulièrement, ce qui énerve des fois le papa et la maman, parce que quand même, je te le dis X fois, tu sais que la limite est là, mais à partir d'un certain moment, le testage des limites va arrêter, et ils sont rassurés.
Et cet alignement est vraiment important entre papa et maman. Mmh. Et c'est un alignement qui doit se faire entre mari et femme, mais en coulisses.
Oui. Tout à fait.
En coulisses, il faut être d'accord sur les limites que l'on pose en tant que parent, mais aussi sur les conséquences de s'approcher trop des limites.
J'allais te dire ça, voilà. Exactement.
Il faut être d'accord sur comment tu corriges. Mmh. Il faut que la correction, quelle qu'elle soit, elle soit constante, appropriée, évidemment, et puis rassurante. Mmh. Donc il y a toujours cette notion, écoute, si je te reprends là, c'est parce que je t'aime. La limite, elle est là, tu la dépasses pas. Et si tu la dépasses, voilà la conséquence.
violence.
Moi, j'ai remarqué chez les enfants, il y a un désir de justice. Ouais. Ça, c'est pas juste, ça, c'est juste. Ouais. Ça fait ça pour ma sœur et pas pour moi.
On expliquait beaucoup. Hein. Il y avait des choses qui allaient donner des corrections systématiques. Le manque de respect, par exemple, on leur expliquait. Ce que tu as fait là, c'est pas bien. Et ce qui arrive maintenant. Et puis après, celui qui avait dealé avec l'enfant en question, bah, le câliner et on disait c'est parce que je t'aime qu'on en est là, mais tu vas voir, tu vas apprendre et ça avance. On a aussi essayé de dire plus oui que non en fait. Parce que dans cet âge-là, c'est plus facile de dire non. Des fois, on est fatigué, on n'a pas envie de gérer ça, on dit non.
C'est souvent pour ça que les enfants vont dire non en premier, parce qu'ils l'ont entendu bien plus souvent de la part de leurs parents.
Si on prend le pli de dire oui à chaque fois qu'on peut vraiment dire oui, même si on n'en a pas vraiment envie, et bien quand on dit non, ils savent que le non, il a de la valeur en fait. C'est pas juste non parce que je suis énervée. C'est non parce que j'ai des raisons. Et peut-être que tu es trop petit pour savoir pourquoi, un jour je t'expliquerai. Pour l'instant, c'est non. Tu touches pas, tu mets pas la main dans l'eau bouillante, c'est non.
Oui, et puis finalement, nous on l'observe tellement, c'est qu'à force de dire non, non pour le sucre, non pour le coca, non pour les bonbons, non machin, finalement quand tu dis non à tout, d'abord ils ont envie de tout ce pourquoi tu dis non, et ça crée l'effet totalement inverse en fait.
Oui. Donc il vaut mieux qu'ils sachent que papa et maman disent toujours oui, sauf quand c'est non, et qu'il y a une bonne raison derrière. Quoi.
Et la maman a un rôle bien important aussi à cette étape-là, hein, la petite enfance, la maman est prédominante pour le démarrage.
C'était Hommes et Femmes, mode d'emploi. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ericetrachel.com.
L'heure pour moi de vous dire au revoir. Je vous quitte pour vous laisser avec l'équipe de Bonjour Chez Vous. Ils vont vous rejoindre dans quelques minutes. Je vous souhaite encore un très bon réveil, une excellente journée, un très très bon jeudi. Merci de rester avec Phare FM. On écoute Martin Garrix avec Bono and the Edge, We Are the People. À très bientôt.
A million volts in a pool of light. Electricity in the room tonight. Born from fire, sparks flying from the sun. Hey, I hardly know you, can I confess? I feel your heart beating in my chest. If you come with me, tonight is gonna be the one. 'Cause you faith and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. Victory's won. 'Cause you faith and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night.